Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct, Chloé Cambrelin.
8h40, bonjour Candice Lafarge.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, membre du collectif Interurgence. 219 services d'urgence toujours mobilisés à travers la France selon ce collectif, environ un tiers des services existants. Le mouvement a commencé mi-mars, ça va faire bientôt 5 mois. On va parler de cette crise avec vous bien sûr, mais d'abord je voudrais qu'on parle un peu de vous, de votre métier. Depuis quand êtes-vous aide-soignante, Candice Lafarge?
Tout d'abord merci de me recevoir et merci de donner de la place au collectif Interurgence dans votre émission. Ça va faire 12 ans que je suis aide-soignante à l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Et pourquoi avez-vous voulu devenir aide-soignante au départ?
Pour aider les gens, parce que c'est des métiers où vous êtes auprès de la personne, c'est un service à la personne, vous les aidez quotidiennement dans leur démarche de soins, vous êtes vraiment là, vous êtes le contact de communication et vous faites le relais entre les informations de l'hôpital et les informations de la famille.
Les urgences, c'était un choix pour vous?
Oui. Et ouais. C'est toujours un choix. Ça fait 10 ans que je travaille aux urgences et je trouve que c'est un service qui est formidable. On a un énorme plateau technique et des équipes pluridisciplinaires avec lesquelles on travaille. Et c'est un travail très enrichissant de par le contact humain et l'expérience professionnelle qu'on y acquiert.
Alors, vous nous dites que vous avez voulu être aide-soignante pour aider les gens. Est-ce que dans la situation actuelle, est-ce que vous avez l'impression tous les jours d'aider les gens, de pouvoir les aider?
Alors aujourd'hui sur le terrain, on est face à une crise qui est présente depuis plus de 10 ans. Mais quand vos directions locales et les directions générales n'entendent pas les petites mains, ce qu'on s'appelle aujourd'hui les paramédicaux, les aides-soignants, les infirmiers, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, mon métier, il est mis à prix. J'ai l'impression tous les jours de rentrer chez moi et de ne pas avoir fait, pas rempli ma mission correctement. J'ai de moins en moins de temps pour mes patients. Il faut qu'on fasse beaucoup plus vite avec moins de temps, moins d'effectifs sur le terrain et moins de matériel. Donc c'est très compliqué.
Alors racontez-nous justement votre quotidien là. Donc aujourd'hui vous êtes en repos et vous venez nous voir, on vous remercie. Mais là par exemple cet été, en ce moment, à quoi ça ressemble vos journées de travail?
Nos journées de travail, c'est la course, c'est des journées où on ne va pas aux toilettes, c'est des journées où on ne remplit pas notre mission correctement parce qu'on n'a pas assez de temps pour communiquer en temps et en heure à nos patients ce qui se passe sur le terrain. C'est très compliqué parce qu'en fait, à travers ce mouvement de grève, Madame Buzyn avait fait des annonces mi-juin qui n'ont pas été suffisantes et qui n'ont pas
réussi. Alors on va les rappeler tout de même. Donc la ministre de la Santé a annoncé débloquer 70 millions d'euros, 55 millions consacrés à la revalorisation de 100 euros net par mois de la prime de risque des soignants et 15 millions pour recruter dans les services en tension, comme on dit cet été. Pour vous, insuffisant?
Pour l'ensemble du collectif, les réponses de Madame Buzyn sont toujours très insuffisantes. Si on remarque que certaines ARS ont joué le jeu dans les régions, on n'a toujours pas vu la couleur de cette enveloppe estivale et sur le terrain, on n'a pas eu de renfort d'effectifs. Donc la colère gronde, la colère augmente. 219 services d'urgence sur tout le territoire, c'est quand même énorme. Donc il serait temps que la ministre et le gouvernement répondent à cette crise correctement.
Alors par ailleurs, donc en parallèle, en plus de ces moyens débloqués en urgence, en juin, la ministre a aussi lancé une mission pour tout réorganiser, parce qu'elle reconnaît bien que ça ne va pas, elle parle elle-même de crise, hein, elle dit qu'il faut tout changer. On attend un premier retour de cette mission à la rentrée. En fait, on a l'impression qu'il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire que tout réorganiser, ça prend du temps, et vous, en fait, vous dites ça fait déjà des années qu'on n'en peut plus, donc il faut faire tout de suite, quoi.
C'est ça. C'est une crise qui existe depuis bien plus de 10 ans, dont personne ne se soucie. Nos patients meurent tous les jours sur des brancards suite à des problèmes de structure et des problèmes de lits d'aval. Donc oui, là, le 2 septembre, on a rendez-vous avec Monsieur Meignet, Monsieur Carly à propos de cette mission nationale, mais qui encore une fois reste à nos yeux une boîte à outils qu'il faut qu'on décortique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'on nous propose des grandes lignes, on a des rapports qui nous sont revenus. Voilà, à nous de décortiquer et puis de trouver le meilleur sens pour une meilleure santé pour demain.
Vous, vos revendications, elles n'ont pas changé depuis le début, je crois. Il y en a trois,
trois revendications, exactement. Une revalorisation salariale à la hauteur de 300 euros. Il faut dire qu'on est le 26e pays à être mal payés sur 29 de l'OCDE. On a des salaires à 1500 ou 1800 euros par mois pour sauver des vies, ce qui est trop juste. Donc une revalorisation serait juste à l'heure actuelle. On demande 10 000 emplois temps plein à effet immédiat. Donc ça, c'est pour rattraper toutes les erreurs du passé. On demande également à ce qu'il n'y ait plus de fermeture des lignes de SAMU, dont la France est victime tous les jours, et zéro hospitalisation brancard. Donc zéro hospitalisation brancard, c'est-à-dire avoir en disponibilité des lits pour l'après-urgence. Chose qu'on n'a pas parce qu'on est victime de suppression et d'enjeux politiques et économiques à travers tout ça.
Quand vous dites 10 000 postes supplémentaires immédiats, on les a, on aurait les effectifs. Si d'un coup on dit 10 000, on n'en a personne pour remplir ces postes.
C'est pareil, à ce niveau-là, il va falloir redonner de l'attractivité à nos métiers. Donc redonner de l'attractivité, c'est forcément revoir une revalorisation salariale. Si on reconnaît que Madame Buzyn a fait un geste au niveau des primes, une prime, ça ne compte pas pour la retraite. Donc nous, on souhaite quelque chose de pérenne et quelque chose de durable et quelque chose de confortable pour soigner le tout venant.
Alors, le mouvement s'est beaucoup étendu en France. C'est tout le pays qui est concerné. Néanmoins, c'était parti de Paris. Et il se trouve que, justement, plusieurs hôpitaux parisiens sont sortis de la grève après des discussions menées au niveau de la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ça n'est pas le cas de l'hôpital Saint-Antoine où vous travaillez. Là, vous êtes toujours mobilisés.
On est toujours mobilisés. On est toujours en grève. Et en septembre, le collectif Interurgence prévoit une alliance des luttes pour un rapport de force un petit peu plus grand. Alors, une alliance des luttes, c'est-à-dire discuter avec les différents intervenants de la santé, par exemple des associations, des collectifs déjà en place. Et en fait, le fait d'être plus nombreux peut-être nous permettra d'être mieux écoutés et en tout cas qu'on se soucie vraiment de cette crise dont le système de santé est victime.
Alors, s'il y a des hôpitaux parisiens qui sont sortis du mouvement, peut-être quand même que ça veut dire qu'il y a eu des avancées.
Alors, on reconnaît que sur la PHP, Martin Hirsch, pour l'occasion, a vraiment fait le nécessaire. Bon, il avait un peu les fesses entre deux chaises. Quand on a un gouvernement et des agents sur le terrain dont la colère ne s'arrête pas, il faut faire quelque chose. Il y a aussi énormément de pression de nos directions locales et beaucoup de services de la PHP qui sont sortis de la grève aujourd'hui sont satisfaits, mais reconnaissent avec le temps qu'ils n'ont pas eu ce qu'il y avait écrit sur les préavis de sortie de grève.
Donc, ils peuvent de nouveau décider de rejoindre le mouvement. C'est pas exclu, quoi.
Non, c'est pas exclu, sachant que dans ce mouvement de grève, on a des préavis locaux pour débattre des situations sur le terrain et des préavis nationaux. Donc, même si à l'heure actuelle, il y a 7 services de la PHP qui n'est pas énorme sur 219 sur une masse qui sont sortis de ce mouvement, ils le rejoindront à la rentrée sur le préavis national de grève.
Est-ce que vous vous sentez soutenu dans ce mouvement? Est-ce que ce mouvement qui dure, on l'a dit, depuis bientôt 5 mois, a changé quelque chose dans vos rapports au quotidien avec les patients ou avec leur entourage?
Ça n'a rien changé parce que, enfin, ça a changé si on a toujours moins de temps pour discuter avec eux, donc c'est toujours très compliqué. Maintenant, à travers ce mouvement, on s'aperçoit que le système de santé est une entreprise au détriment du patient. Et qui est-ce qui paye? C'est vous, c'est nous.
Mais ce que je veux dire, c'est dans les yeux des patients et de leur famille, est-ce que depuis, qu'on parle régulièrement depuis le mois de mars de la situation aux urgences, est-ce que vous avez l'impression que la population en général et les gens avec lesquels vous êtes au contact, c'est-à-dire les patients, encore une fois leurs proches, vous considèrent autrement? Vous êtes plus visible? Est-ce qu'ils vous comprennent? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous parlent de ce mouvement?
Alors, on a un gros soutien de la population. Il y a un rapport qui était paru dans les médias. On a 93% de la population qui nous soutient. Le regard n'a pas changé de nos patients. Enfin, pour eux, on est des perles de vie. Maintenant, ils sont bien conscients que notre grève est justifiée et que une revalorisation salariale serait bénéfique pour nous. Donc oui, on a un gros soutien de nos patients. Nos patients sont contents de ce mouvement de grève parce qu'ils savent qu'on ne fait pas grève pour faire grève, mais pour améliorer des conditions de prise en charge et notamment pour leur faire éviter de rester plus de 15 heures, 20 heures, 3 jours, 7 jours sur un brancard.
Oui, on a parlé beaucoup au mois de juillet de cet homme qui est resté sur un brancard à Saint-Étienne pendant 5 jours. C'est exceptionnel, ça, quand même, ou vous avez déjà vécu des choses similaires?
Je dirais pas que c'est exceptionnel. Je dirais qu'à partir du moment où on n'a pas de lit post-urgence, forcément, ces cas de figure-là sont visibles sur le terrain. Donc on va avoir un patient qui va rester 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sur un brancard, chose qui est complètement inadmissible. Donc non, c'est pas exceptionnel. Voilà, ça arrive tous les jours, sauf que vu que là nous sommes en mouvement de grève, on communique sur ces situations à risque, mais sur le terrain c'est tous les jours.
Alors, il faut parler aussi, le rappeler peut-être, que ce mouvement est parti de l'hôpital Saint-Antoine, donc où vous travaillez, après une série d'agressions. Là, on a appris hier que 12 personnes avaient été placées en garde à vue à Marseille après une rixe à coup de batte de baseball dans les urgences de l'hôpital Nord. C'était vendredi dernier, ils venaient a priori chercher quelqu'un qui avait été hospitalisé. Vous dites que vous êtes de plus en plus confrontés à la violence dans l'exercice de votre profession. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ? Est-ce que c'est contre les soignants ou est-ce que c'est finalement le contexte, la situation générale ?
Pour être tout à fait honnête, le contexte de la situation fait qu'à un moment donné, quand vous avez un nombre de patients trop important au même endroit, il suffit juste qu'il y ait un patient qui soit un petit peu affecté psychologiquement et qui en ait marre de la situation, il s'agace. On répond pas forcément à ses attentes parce qu'on est en sous-effectif. La tension monte, une salle d'attente s'agace, l'agressivité verbale prend le dessus. Et quand l'agressivité verbale ne suffit pas à contenter une colère, on passe à l'agression physique. Et effectivement, il y en a de plus en plus. Depuis 2019, on subit, peu importe la catégorie de métier, que vous soyez aide-soignant, infirmier ou médecin, vous vous faites agresser en permanence par les patients. Donc jusqu'à présent, on acceptait le verbal, je dis bien accepté, hein, toujours sous couvert de notre blouse et notre fonction, parce qu'on comprend le ras-le-bol de nos patients d'attendre. Maintenant, l'agression physique, on ne l'entend pas et on ne la comprend pas.
Évidemment. Je voudrais qu'on parle aussi un peu de l'une des spécificités de ce mouvement. Ce ne sont pas les syndicats classiques, on va dire, qui sont en première ligne, mais ce collectif donc, dont vous êtes membre, ce collectif Inter-Urgence, c'est lui hein, qui nous dit voilà, régulièrement combien de services sont mobilisés. C'est quoi ce collectif et comment est-ce que vous êtes organisé ?
Alors ce collectif, c'est des infirmiers et des aides-soignants de chaque service d'urgence, donc tout d'abord de Paris. Donc on s'est contacté par les réseaux sociaux et puis on a vu que la colère et que nos revendications étaient similaires à tous les services d'urgence de la PHP dans un premier temps. De là on s'est constitué, donc on a un groupe communication, on a un groupe coordination, on a un groupe contenu et de fil en aiguille bah, on a été chercher nos copains de la France et en fait bah, tout ça est venu un peu comme une évidence parce que vous travaillez à Marseille, que vous soyez à Toulouse, Bordeaux, Nantes, vous vivez exactement les mêmes souffrances sur le terrain, si ce n'est même bien plus compliqué en région.
Et d'ailleurs, là, cet été, c'est surtout en région hein, vraiment qu'il y a des fortes mobilisations. Mais donc aujourd'hui, ce collectif, il est représentatif de l'ensemble du territoire. Et voilà, vous êtes en lien les uns les autres. Il n'y a pas un chef. Enfin, c'est vrai qu'on voit des porte-paroles, des membres, comme on dit.
Alors, il y a effectivement des porte-paroles, vu que ce mouvement a débuté à la PHP et qu'au début, il a fallu qu'on se constitue très rapidement. Donc effectivement, il y a quelques têtes que vous entendez, que vous voyez régulièrement sur les réseaux et sur les médias. Maintenant, ce collectif-là donne l'opportunité à chacun d'entre nous de pouvoir exprimer notre colère et les difficultés qu'on rencontre sur le terrain.
Alors, il y a quelques jours, ça date de la fin de la semaine dernière, les médecins, via l'Association des médecins urgentistes de France, ont rejoint la contestation. Ils demandent de meilleures primes pour limiter les départs vers le privé. Ce week-end, dans le journal Le Monde, une infirmière disait que ce mouvement, c'était la révolte des petites mains de l'hôpital. J'ai entendu que vous l'aviez dit aussi, vous, tout à l'heure. Est-ce que, finalement, c'est une bonne chose que les médecins vous rejoignent ?
Alors, jusqu'à présent, on avait demandé aux médecins de rester en soutien. Parce qu'à partir du moment où un médecin se met en grève ou un ensemble de médecins se met en grève, le paramédical est forcément écrasé. On n'a pas le même poids dans la vie sociale et on n'a pas le même poids au niveau des négociations et des revendications. Donc jusqu'à présent, on leur avait demandé d'être là en soutien. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour préparer la rentrée, la MUF se prépare à une convergence des luttes et une revalorisation salariale via un mode de revendication.
C'est un peu ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Il y a un rendez-vous, une assemblée générale nationale le 10 septembre, c'est ça ?
Exactement, à l'appel du collectif Inter-Urgence à Paris.
Et donc on comprend bien que ça pourrait être plus sérieux encore comme mobilisation à la rentrée, quoi.
À la rentrée, la mobilisation sera beaucoup plus importante déjà de 1 et beaucoup plus sérieuse.
Et juste Candice Lafarge, j'en ai d'accord quand on dit les services d'urgence en grève, etc. Vous êtes toujours là pour vous occuper des patients.
Oui. Alors il faut que vous sachiez si à l'heure actuelle nous sommes en grève, c'est parce que vous attendez trop longtemps sur des brancards. Donc la grève n'impacte pas votre prise en charge. Le système et la structure fait que vos prises en charge sont longues.
Mais vous êtes toujours là?
Nous, on est toujours là. On a un service minimum sur le terrain. Ce service minimum, c'est exactement le même que vous avez à l'année. On remplit notre mission.
Il y a toujours des réquisitions aussi?
Alors, les réquisitions, c'est sur arrêté préfectoral. Donc, on a des assignations. D'accord. Donc, dans chaque équipe, vous avez un service minimum. Un assigné est donc quelqu'un qui va aller travailler et qui va être payé. Et le non-assigné est un gréviste sec. C'est pour ça que sur notre site internet www.interurgence.fr, vous avez la possibilité de vous adhérer à l'association et de participer à un petit financement si vous le souhaitez pour nous aider.
Pour soutenir le mouvement. Je crois qu'on a déjà la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de penser à changer de métier?
Il m'arrive beaucoup.
Malgré le fait que vous soyez passionné, que vous ayez voulu faire ça.
J'aime mon métier. Je pense que tous les personnels à l'heure actuelle qui sont en grève aiment leur métier. C'est pour ça qu'on est en grève, en fait. On veut vraiment faire élever ce débat sur la santé et on en a vraiment marre de ne pas pouvoir répondre en temps et en heure aux besoins de la population.
Donc, il vous arrive de douter tout de même.
Donc, il arrive tous les jours que je doute de mon métier et que je doute du fait que j'ai pris la bonne voie.
Merci beaucoup. Merci Candice Lafarge, aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et membre donc de ce collectif Interurgence. Merci d'être venue ce matin sur RMC. La météo, le journal et les grandes gueules à suivre. Je vous dis à demain, 6h sur RMC. Bonne journée.